depuis qu'elle était partie. Bien souvent, quand il me semblait qu'on ne pouvait pas voir que j'avais pleuré, je sonnais Françoise et je lui disais « Il faudra voir si Mademoiselle Albertine n'a rien oublié. Pensez à faire sa chambre pour qu'elle soit bien en état quand elle viendra. » Ou simplement « Justement, l'autre jour, Mademoiselle Albertine me disait « Tenez, justement la veille de son départ. » Je voulais diminuer chez Françoise le détestable plaisir que lui causait le départ d'Albertine en lui faisant entrevoir qu'il serait court. Je voulais aussi montrer à Françoise que je ne craignais pas de parler de ce départ, le montrer, comme font certains généraux, qui appellent des reculs forcés une retraite stratégique et conforme à un plan préparé, comme voulu, comme constituant un épisode dont je cachais momentanément la vraie signification. Nullement comme la fin de mon amitié avec Albertine. En la nommant sans cesse, je voulais enfin faire rentrer, comme un peu d'air, quelque chose d'elle dans cette chambre, où son départ avait fait le vide et où je ne respirais plus. Puis on cherche à diminuer les proportions de sa douleur en la faisant rentrer dans le langage parlé, entre la commande d'un costume et des ordres pour le dîner. En faisant la chambre d'Albertine, Françoise, curieuse, ouvrit le tiroir d'une petite table en bois de rose où mon amie mettait les objets intimes qu'elle ne gardait pas pour dormir. « Oh, monsieur, Mademoiselle Albertine a oublié de prendre ses bagues. Elles sont restées dans le tiroir. » Mon premier mouvement fut de dire « Il faut les lui renvoyer. » Mais cela avait l'air de ne pas être certain qu'elle reviendrait. « Bien, répondis-je après un instant de silence. Cela ne vaut guère la peine de les lui renvoyer pour le peu de temps qu'elle doit être absente. Donnez-les-moi, je verrai. » Françoise me les remit avec une certaine méfiance. Elle détestait Albertine. Mais me jugeant d'après elle-même, elle se figurait qu'on ne pouvait me remettre une lettre écrite par mon amie sans crainte que je l'ouvrisse. Je pris les bagues. « Que monsieur y fasse attention de ne pas les perdre, » dit Françoise. « On peut dire qu'elles sont belles. Je ne sais pas qui les lui a données, si c'est monsieur ou un autre, mais je vois bien que c'est quelqu'un de riche et qui a du goût. » « Ce n'est pas moi, » répondis-je à Françoise. « Et d'ailleurs, ce n'est pas de la même personne que viennent les deux. L'une lui a été donnée par sa tante, et elle a acheté l'autre. »« Pas de la même personne ?» s'écria Françoise. « Monsieur veut rire ? Elles sont pareilles. Sauf le rubis qu'on a ajouté sur l'une. Il y a le même aigle sur les deux. Les mêmes initiales à l'intérieur. » Je ne sais pas si Françoise sentait le mal qu'elle me faisait. Mais elle commença à ébaucher un sourire qui ne quitta plus ses lèvres. « Comment le même aigle? Vous êtes folle? Sur celle qui n'a pas de rubis, il y a bien un aigle. Mais sur l'autre, c'est une espèce de tête d'homme qui est ciselée. Une tête d'homme? Où monsieur a vu ça? Rien qu'avec mes lorgnons, j'ai tout de suite vu que c'était une des ailes de l'aigle. Que monsieur prenne sa loupe. Il verra l'autre aile sur l'autre côté, la tête et le bec au milieu. On voit chaque plume. Ah, c'est un beau travail !» L'anxieux besoin de savoir si Albertine m'avait menti me fit oublier que j'aurais dû garder quelque dignité envers Françoise et lui refuser le plaisir méchant qu'elle avait, sinon à me torturer, du moins à nuire à mon amie. Je haletais, tandis que Françoise allait chercher ma loupe. Je la pris. Je demandai à Françoise de m'en montrer l'aile sur la bague au rubis. Elle n'eut pas de peine à me faire reconnaître les ailes, stylisées de la même façon que dans l'autre bague, le relief de chaque plume. La tête. Elle me fit remarquer aussi des inscriptions semblables, auxquelles, il est vrai, d'autres étaient jointes, dans la bague au rubis. Et à l'intérieur des deux, le chiffre d'Albertine. Mais cela m'étonne que monsieur ait eu besoin de tout cela pour voir que c'était la même bague, me dit Françoise. Même sans les regarder de près, on sent bien la même façon, la même manière de plisser l'or, la même forme. Rien qu'à les apercevoir, j'aurais juré qu'elles venaient du même endroit. Ça se reconnaît, comme la cuisine d'une bonne cuisinière. Et en effet, à sa curiosité de domestique attisée par la haine et habituée à noter des détails avec une effrayante précision, c'était joint, pour l'aider dans cette expertise, ce goût qu'elle avait. Ce même goût, en effet, qu'elle montrait dans la cuisine et qu'elle vivait peut-être, comme je m'en étais aperçue en partant pour Balbec, dans sa manière de s'habiller, sa coquetterie de femme qui a été jolie, qui a regardé les bijoux et les toilettes des autres. Je me serais trompée de boîte de médicaments, et au lieu de prendre quelques cachets de Véronal, un jour où je sentais que j'avais bu trop de tasses de thé, j'aurais pris autant de cachets de caféine que mon cœur n'eût pas pu battre plus violemment. Je demandai à Françoise de sortir de la chambre. J'aurais voulu voir Albertine immédiatement. À l'horreur de son mensonge, à la jalousie pour l'inconnu, s'ajoutait la douleur qu'elle se fût laissée ainsi faire des cadeaux. Je lui en faisais plus, il est vrai. Mais une femme que nous entretenons ne nous semble pas une femme entretenue, tant que nous ne savons pas qu'elle l'est par d'autres. Et pourtant, puisque je n'avais cessé de dépenser pour elle tant d'argent, je l'avais prise malgré cette bassesse morale. Cette bassesse, je l'avais maintenue en elle. Je l'avais peut-être accrue, peut-être créée. Puis, comme nous avons le don d'inventer des contes pour bercer notre douleur, comme nous arrivons, quand nous mourons de faim, à nous persuader qu'un inconnu va nous laisser une fortune de 100 millions, j'imaginais Albertine dans mes bras, m'expliquant d'un mot que c'était à cause de la ressemblance de la fabrication qu'elle avait acheté l'autre bague, que c'était elle qui avait fait mettre ses initiales. Mais cette explication était encore fragile. Elle n'avait pas encore eu le temps d'enfoncer dans mon esprit ses racines bienfaisantes, et ma douleur ne pouvait être si vite apaisée. Et je songeais que tant d'hommes qui disent aux autres que leur maîtresse est bien gentille souffrent de pareilles tortures. C'est ainsi qu'ils mentent aux autres et à eux-mêmes. Ils ne mentent pas tout à fait. Ils ont avec cette femme des heures vraiment douces. Mais songez à tout ce que cette tendresse qu'elles ont pour eux devant leurs amis et qui leur permet de se glorifier, et à tout ce que cette gentillesse qu'elles ont seules avec leurs amants et qui leur permet de les bénir, recouvre d'heures inconnues où l'amant a souffert, douté, fait partout d'inutiles recherches pour savoir la vérité. C'est à de telles souffrances qu'est liée la douceur d'aimer, de s'enchanter des propos les plus insignifiants d'une femme qu'on sait insignifiant, mais qu'on parfume de son odeur. En ce moment, je ne pouvais plus me délecter à respirer par le souvenir de celle d'Albertine. Atterrée, les deux bagues à la main, je regardais cet aigle impitoyable dont le bec me tenaillait le cœur, dont les ailes aux plumes en relief avaient emporté la confiance que je gardais dans mon ami, et sous les serres duquel mon esprit meurtri ne pouvait pas échapper un instant aux questions posées sans cesse relativement à cet inconnu, dont l'aigle symbolisait sans doute le nom, sans pourtant me le laisser lire, qu'elle avait aimé sans doute autrefois, et qu'elle avait revu sans doute, il n'y avait pas longtemps, puisque c'est le jour si doux, si familial, de la promenade ensemble au bois, que j'avais vu pour la première fois la seconde bague, celle où l'aigle avait l'air de tremper son bec dans la nappe de sang clair du rubis. Du reste, si du matin au soir je ne cessais de souffrir du départ d'Albertine, cela ne signifiait pas que je ne pensais qu'à elle. D'une part, son charme ayant depuis longtemps gagné de proche en proche des objets qui finissaient par en être très éloignés, mais n'était pas moins électrisée par la même émotion qu'elle me donnait si quelque chose me faisait penser à un Carville, ou au Verdurin, ou à un nouveau rôle de Léa. Un flux de souffrance venait me frapper. D'autre part, moi-même, ce que j'appelais penser à Albertine, c'était penser au moyen de la faire revenir, de la rejoindre, de savoir ce qu'elle faisait. De sorte que si, pendant ces heures de martyre incessant, un graphique avait pu représenter les images qui accompagnaient mes souffrances, on eût aperçu celle de la gare d'Orsay, des billets de banque offerts à Madame Bontemps, de Saint-Loup, penché sur le pupitre incliné d'un bureau de télégraphe où il remplissait une formule de dépêche pour moi. Jamais l'image d'Albertine. De même que dans tout le cours de notre vie, notre égoïsme voit tout le temps devant lui les buts précieux pour moi, mais ne regarde jamais ce « je » lui-même qui ne cesse de les considérer. De même, le désir qui dirige nos actes descend vers eux, mais ne remonte pas à soi. Soit que, trop utilitaire, il se précipite dans l'action et dédaigne la connaissance, soit que nous recherchions l'avenir pour corriger les déceptions du présent, soit que la paresse de l'esprit le pousse à glisser sur la pente aisée de l'imagination plutôt qu'à remonter la pente abrupte de l'introspection. En réalité, dans ces heures de crise où nous jouerions toute notre vie, au fur et à mesure que l'être dont elle dépend révèle mieux l'immensité de la place qu'il occupe pour nous, en ne laissant rien dans le monde qui ne soit bouleversé par lui, proportionnellement, l'image de cet être décroît jusqu'à ne plus être perceptible. En toute chose, nous trouvons l'effet de sa présence par l'émotion que nous ressentons. Lui-même, la cause, nous ne la trouvons nulle part. Je fus pendant ces jours-là si incapable de me représenter Albertine que j'aurais presque pu croire que je ne l'aimais pas, comme ma mère, dans les moments de désespoir où elle fut incapable de se représenter jamais ma grand-mère. Sauf une fois, dans la rencontre fortuite d'un rêve, dont elle sentait tellement le prix, quoique endormie, qu'elle s'efforçait avec ce qui lui restait de force dans le sommeil, de le faire durer. Aurait pu s'accuser, et s'accusait en effet de ne pas regretter sa mère, dont la mort la tuait, mais dont les traits se dérobaient à son souvenir. Pourquoi eussé-je cru qu'Albertine n'aimait pas les femmes? Parce qu'elle avait dit, surtout les derniers temps, ne pas les aimer? Mais notre vie ne reposait-elle pas sur un perpétuel mensonge? Jamais elle ne m'avait dit une fois. Pourquoi est-ce que je ne peux pas sortir librement? Pourquoi demandez-vous aux autres ce que je fais? Mais c'était en effet une vie trop singulière pour qu'elle ne me l'eût pas demandé si elle n'avait pas compris pourquoi. Et à mon silence sur les causes de sa claustration, n'était-il pas compréhensible que correspondît de sa part un même et constant silence sur ses perpétuels désirs, ses souvenirs innombrables, ses innombrables désirs et espérances? Françoise avait l'air de savoir que je mentais quand je faisais allusion au prochain retour d'Albertine. Et sa croyance semblait fondée sur un peu plus que sur cette vérité qui guidait d'habitude notre domestique, que les maîtres n'aiment pas à être humiliés vis-à-vis de leurs serviteurs et ne leur font connaître de la réalité que ce qui ne s'écarte pas trop d'une action flatteuse, propre à entretenir le respect. Cette fois-ci, la croyance de Françoise avait l'air fondée sur autre chose, comme si elle eût elle-même déjà entretenu la méfiance dans l'esprit d'Albertine, surexcité sa colère, bref, l'eût poussée au point où elle aurait pu prédire comme inévitable son départ. Si c'était vrai, ma version d'un départ momentané, connue et approuvée par moi, n'avait pu rencontrer qu'incrédulité chez Françoise. Mais l'idée qu'elle se faisait de la nature intéressée d'Albertine, l'exaspération avec laquelle, dans sa haine, elle grossissait le profit qu'Albertine était censée tirer de moi, pouvait dans une certaine mesure faire échec à sa certitude. Aussi, quand devant elle je faisais allusion, comme à une chose toute naturelle, au prochain retour d'Albertine, Françoise regardait-elle ma figure, pour voir si je n'inventais pas, de la même façon que quand le maître d'hôtel, pour l'ennuyer, lui disait, en changeant les mots, une nouvelle politique qu'elle hésitait à croire, par exemple la fermeture des églises et la déportation des curés. Même du bout de la cuisine et sans pouvoir lire, elle fixait instinctivement et avidement le journal, comme si elle eût pu voir si c'était vraiment écrit. Quand Françoise vit qu'après avoir écrit une longue lettre, j'y mettais l'adresse de Madame Bontemps, cet effroi jusque-là si vague qu'Albertine revint, grandit chez elle. Il se doubla d'une véritable consternation, quand un matin elle dut me remettre dans mon courrier une lettre sur l'enveloppe de laquelle elle avait reconnu l'écriture d'Albertine. Elle se demandait si le départ d'Albertine n'avait pas été une simple comédie, supposition qui la désolait doublement, comme assurant définitivement pour l'avenir la vie d'Albertine à la maison, et comme constituant pour moi, c'est-à-dire, en tant que j'étais le maître de Françoise, pour elle-même l'humiliation d'avoir été jouée par Albertine. Quelque impatience que j'eusse de lire la lettre de celle-ci, je ne pus m'empêcher de considérer un instant les yeux de Françoise, d'où tous les espoirs s'étaient enfuis, en induisant de ce présage l'imminence du retour d'Albertine, comme un amateur de sports d'hiver conclut avec joie que les froids sont proches, en voyant le départ des hirondelles. Enfin Françoise partit, et quand je me fus assurée qu'elle avait refermé la porte, j'ouvris sans bruit, pour ne pas avoir l'air anxieux, la lettre que voici. Mon ami, merci de toutes les bonnes choses que vous me dites. Je suis à vos ordres pour décommander la Rolls, si vous croyez que j'y puisse quelque chose, et je le crois. Vous n'avez qu'à m'écrire le nom de votre intermédiaire. Vous vous laisseriez monter le coup par ces gens qui ne cherchent qu'une chose, c'est à vendre. Et que feriez-vous d'une auto, vous qui ne sortez jamais? Je suis très touchée que vous ayez gardé un bon souvenir de notre dernière promenade. Croyez que de mon côté je n'oublierai pas cette promenade, deux fois crépusculaire, puisque la nuit venait et que nous allions nous quitter, et qu'elle ne s'effacera de mon esprit qu'avec la nuit complète. Je sentis que cette dernière phrase n'était qu'une phrase, et qu'Albertine n'aurait pas pu garder, pour jusqu'à sa mort, un si doux souvenir de cette promenade, où elle n'avait certainement eu aucun plaisir, puisqu'elle était impatiente de me quitter. Mais j'admirais aussi comme la cycliste, la golfeuse de Balbec, qui n'avait rien lu qu'Esther avant de me connaître, était douée, et combien j'avais eu raison de trouver qu'elle s'était chez moi enrichie de qualités nouvelles, qui la faisaient différente et plus complète. Et ainsi la phrase que je lui avais dite à Balbec, « Je crois que mon amitié vous serait précieuse, que je suis justement la personne qui pourrait vous apporter ce qui vous manque. » Je lui avais mis comme dédicace sur une photographie, avec la certitude d'être providentielle. Cette phrase, que je disais sans y croire et uniquement pour lui faire trouver bénéfice à me voir et passer sur l'ennui qu'elle pouvait y avoir, cette phrase se trouvait, elle aussi, avoir été vraie. De même, en somme, quand je lui avais dit que je ne voulais pas la voir par peur de l'aimer, j'avais dit cela parce qu'au contraire, je savais que dans la fréquentation constante, mon amour s'amortissait et que la séparation l'exaltait. Mais en réalité, la fréquentation constante avait fait naître un besoin d'elle, infiniment plus fort que l'amour des premiers temps de Balbec. La lettre d'Albertine n'avançait en rien les choses. Elle ne me parlait que d'écrire à l'intermédiaire. Il fallait sortir de cette situation, brusquer les choses. Et j'eus l'idée suivante. Je fis immédiatement porter à André une lettre où je lui disais qu'Albertine était chez sa tante, que je me sentais bien seule, qu'elle me ferait un immense plaisir en venant s'installer chez moi pour quelques jours, et que, comme je ne voulais faire aucune cachotterie, je la priais d'en avertir Albertine. Et en même temps, j'écrivis à Albertine, comme si je n'avais pas encore reçu sa lettre. « Mon ami, pardonnez-moi ce que vous comprendrez si bien. Je déteste tant les cachotteries que j'ai voulu que vous fussiez averti par elle et par moi. J'ai, à vous avoir eu si doucement chez moi, pris la mauvaise habitude de ne pas être seule. Puisque nous avons décidé que vous ne reviendrez pas, j'ai pensé que la personne qui vous remplacerait le mieux, parce que c'est celle qui me changerait le moins, qui vous rappellerait le plus, c'était André. Je lui ai demandé de venir. Pour que cela n'eût pas l'air trop brusque, je ne lui ai parlé que de quelques jours. Mais, entre nous, je pense bien que cette fois-ci, c'est une chose de toujours. Ne croyez-vous pas que j'ai raison ? Vous savez que votre petit groupe de jeunes filles de Balbec a toujours été la cellule sociale qui a exercé sur moi le plus grand prestige, auquel j'ai été le plus heureux d'être un jour agrégé. Sans doute, c'est ce prestige qui se fait encore sentir. Puisque la fatalité de nos caractères et la malchance de la vie a voulu que ma petite Albertine ne puisse pas être ma femme, je crois que j'aurai tout de même une femme, moins charmante qu'elle, mais à qui des conformités plus grandes de nature permettront peut-être d'être plus heureuse avec moi, dans André. Mais après avoir fait partir cette lettre, le soupçon me vint tout à coup que quand Albertine m'avait écrit, j'aurais été trop heureuse de revenir si vous me l'aviez écrit directement. Elle ne me l'avait dit que parce que je ne lui avais pas écrit directement, et que si je l'avais fait, elle ne serait pas revenue tout de même. Elle serait contente de voir André chez moi, puis ma femme, pourvu qu'elle, Albertine, fût libre. Parce qu'elle pouvait maintenant, depuis déjà 8 jours, détruisant les précautions de chaque heure que j'avais prises pendant plus de 6 mois à Paris, se livrer à ses vices, et faire ce que minute par minute j'avais empêché. Je me disais que probablement elle usait mal, là-bas, de sa liberté, et sans doute cette idée que je formais me semblait triste, mais restait générale, ne me montrant rien de particulier. Et par le nombre indéfini des amantes possibles qu'elle me faisait supposer, ne me laissait m'arrêter à aucune, entraînait mon esprit dans une sorte de mouvement perpétuel, non exempte de douleur, mais d'une douleur qui, par le défaut d'une image concrète, était supportable. Pourtant, cette douleur cessa de le demeurer et devint atroce quand Saint-Loup arriva. Avant de dire pourquoi les paroles qu'il me dit me rendirent si malheureux, je dois relater un incident que je place immédiatement avant sa visite et dont le souvenir me troubla ensuite tellement qu'il affaiblit, sinon l'impression pénible que me produisit ma conversation avec Saint-Loup, du moins la portée pratique de cette conversation. Cet incident consiste en ceci. Brûlant d'impatience de voir Saint-Loup, je l'attendais sur l'escalier. Ce que je n'aurais pu faire si ma mère avait été là, car c'est ce qu'elle détestait le plus au monde après parler par la fenêtre. Quand j'entendis les paroles suivantes. « Comment ? Vous ne savez pas faire renvoyer quelqu'un qui vous déplaît ? Ce n'est pas difficile. Vous n'avez par exemple qu'à cacher les choses qu'il faut qu'il apporte. Alors, au moment où ses patrons sont pressés, l'appellent, il ne trouve rien, il perd la tête. Ma tante vous dira, furieuse de lui, « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Quand il arrivera, en retard, tout le monde sera en fureur, et il n'aura pas ce qu'il faut. Au bout de 4 ou 5 fois, vous pouvez être sûr qu'il sera renvoyé. Surtout, si vous avez soin de salir en cachette ce qu'il doit apporter de propre, et mille autres trucs comme cela. » Je restais muet de stupéfaction, car ces paroles machiavéliques et cruelles étaient prononcées par la voix de Saint-Loup. Or, je l'avais toujours considéré comme un être si bon, si pitoyable aux malheureux, que cela me faisait le même effet que s'il avait récité un rôle de Satan. Ce ne pouvait être en son nom qu'il parlait. « Mais il faut bien que chacun gagne sa vie, » dit son interlocuteur, que j'aperçus alors, et qui était un des valets de pied de la duchesse de Guermantes. « Qu'est-ce que ça vous fiche du moment que vous serez bien ?» répondit méchamment Saint-Loup. « Vous aurez en plus le plaisir d'avoir un souffre-douleur. Vous pouvez très bien renverser des encriers sur sa livrée au moment où il viendra servir un grand dîner. Enfin, ne pas lui laisser une minute de repos, jusqu'à ce qu'il finisse par préférer s'en aller. Du reste, moi je pousserai à la roue. Je dirai à ma tante que j'admire votre patience, de servir avec un lourdeau pareil et aussi mal tenu. » Je me montrai. Saint-Loup vint à moi, mais ma confiance en lui était ébranlée depuis que je venais de l'entendre tellement différent de ce que je connaissais. Et je me demandais si quelqu'un qui était capable d'agir aussi cruellement envers un malheureux n'avait pas joué le rôle d'un traître vis-à-vis de moi, dans sa mission auprès de Madame Bontemps. Cette réflexion servit surtout à ne pas me faire considérer son insuccès comme une preuve que je ne pouvais pas réussir, une fois qu'il m'eut quitté. Mais, pendant qu'il fut auprès de moi, c'était pourtant au Saint-Loup d'autrefois, et surtout à l'ami qui venait de quitter Madame Bontemps, que je pensais. Il me dit d'abord, « Tu trouves que j'aurais dû te téléphoner davantage, mais on disait toujours que tu n'étais pas libre. » Mais où ma souffrance devint insupportable, ce fut quand il me dit, « Pour commencer par où ma dernière dépêche t'a laissé, après avoir passé par une espèce de hangar, j'entrai dans la maison, et au bout d'un long couloir, on me fit entrer dans un salon. » À ces mots de hangar, de couloir, de salon, et avant même qu'ils eussent fini d'être prononcés, mon cœur fut bouleversé avec plus de rapidité que par un courant électrique, car la force qui fait le plus de fois le tour de la Terre en une seconde, ce n'est pas l'électricité, c'est la douleur. Comme je le répétais, renouvelant le choc à plaisir, ces mots de hangar, de couloir, de salon, quand Saint-Loup fut parti. Dans un hangar, on peut se coucher avec une amie. Et dans un salon, qui sait ce qu'Albertine faisait quand sa tante n'était pas là? Et quoi? Je m'étais donc représenté la maison où elle habitait comme ne pouvant posséder ni hangar ni salon? Non, je ne me l'étais pas représenté du tout, sinon comme un lieu vague. J'avais souffert une première fois quand s'était individualisé géographiquement le lieu où était Albertine. Quand j'avais appris qu'au lieu d'être dans deux ou trois endroits possibles, elle était en Touraine, ces mots de sa concierge avaient marqué dans mon cœur, comme sur une carte, la place où il fallait enfin souffrir. Mais une fois habituée à cette idée qu'elle était dans une maison de Touraine, je n'avais pas vu la maison. Jamais ne m'était venue à l'imagination cette affreuse idée de salon, de hangar, de couloir, qui me semblait face à moi sur la rétine de Saint-Loup qui les avait vues, ces pièces dans lesquelles Albertine allait, passait, vivait, ces pièces-là en particulier, et non une infinité de pièces possibles qui s'étaient détruites l'une l'autre. Avec les mots de hangar, de couloir, de salon, ma folie m'a paru d'avoir laissé Albertine 8 jours dans ce lieu maudit, dont l'existence, et non la simple possibilité, venait de m'être révélée. Hélas, quand Saint-Loup me dit aussi que dans ce salon, il avait entendu chanter à tue-tête d'une chambre voisine, et que c'était Albertine qui chantait, je compris avec désespoir que, débarrassée enfin de moi, elle était heureuse. Elle avait reconquis sa liberté, et moi qui pensais qu'elle allait venir prendre la place d'André. Ma douleur se changea en colère contre Saint-Loup. C'est tout ce que je t'avais demandé d'éviter, qu'elle sût que tu venais. Si tu crois que c'était facile, on m'avait assuré qu'elle n'était pas là. Oh, je sais bien que tu n'es pas content de moi, je l'ai bien senti de tes dépêches, mais tu n'es pas juste, j'ai fait ce que j'ai pu. Lâché de nouveau, ayant quitté la cage d'où chez moi je restais des jours entiers sans la faire venir dans ma chambre, Albertine avait repris pour moi toute sa valeur. Elle était redevenue celle que tout le monde suivait, l'oiseau merveilleux des premiers jours. Enfin, résumons-nous. Pour la question d'argent, je ne sais que te dire. J'ai parlé à une femme qui m'a paru si délicate que je craignais de la froisser. Or, elle n'a pas fait ouf quand j'ai parlé de l'argent. Même un peu plus tard, elle m'a dit qu'elle était touchée de voir que nous nous comprenions si bien. Pourtant, tout ce qu'elle a dit ensuite était si délicat, si élevé, qu'il me semblait impossible qu'elle eût dit pour l'argent que je lui offrais « Nous nous comprenons si bien ». car au fond, j'agissais en mufle. Mais peut-être n'a-t-elle pas compris. Elle n'a peut-être pas entendu. Tu aurais dû le lui répéter, car c'est cela sûrement qui aurait tout fait réussir. Mais comment veux-tu qu'elle n'ait pas entendu? Je lui ai dit comme je te parle. Elle n'est ni sourde ni folle. Et elle n'a fait aucune réflexion? Aucune. Tu aurais dû lui redire une fois. Comment voulais-tu que je lui redise? Dès qu'en entrant j'ai vu l'air qu'elle avait, je me suis dit que tu t'étais trompé, que tu me faisais faire une immense gaffe. Et c'était terriblement difficile de lui offrir cet argent ainsi. Je l'ai fait pourtant pour t'obéir, persuadée qu'elle allait me faire mettre dehors. Mais elle ne l'a pas fait. Donc, ou elle n'avait pas entendu et il fallait recommencer, ou vous pouviez continuer sur ce sujet. Tu dis, elle n'avait pas entendu parce que tu es ici. Mais je te répète, si tu avais assisté à notre conversation, il n'y avait aucun bruit. Je l'ai dit brutalement. Il n'est pas possible qu'elle n'ait pas compris. Mais enfin, elle est bien persuadée que j'ai toujours voulu épouser sa nièce. Non. Ça, si tu veux mon avis, elle ne croyait pas que tu eusses du tout l'intention d'épouser. Elle m'a dit que tu avais dit toi-même à sa nièce que tu voulais la quitter. Je ne sais même pas si maintenant elle est bien persuadée que tu vas y épouser. Ceci me rassurait un peu, en me montrant que j'étais moins humiliée, donc plus capable d'être encore aimée, plus libre de faire une démarche décisive. Pourtant, j'étais tourmentée. Je suis ennuyée parce que je vois que tu n'es pas content. Si, je suis touchée, reconnaissant de ta gentillesse. Mais il me semble que tu aurais pu... J'ai fait de mon mieux. Un autre n'eût pu faire davantage, ni même autant. Essaye d'un autre. Mais non, justement, si j'avais su, je ne t'aurais pas envoyé. Mais ta démarche avortée m'empêche d'en faire une autre. Je lui faisais des reproches. Il avait cherché à me rendre service et n'avait pas réussi. Saint-Loup, en s'en allant, avait croisé des jeunes filles qui entraient. J'avais déjà fait souvent la supposition qu'Albertine connaissait des jeunes filles dans le pays. Mais c'était la première fois que j'en ressentais la torture. Il faut vraiment croire que la nature a donné à notre esprit de sécréter un contre-poison naturel qui annihile les suppositions que nous faisons à la fois sans trêve et sans danger. Mais rien ne m'immunisait contre ces jeunes filles que Saint-Loup avait rencontrées. Tous ces détails, n'était-ce pas justement ce que j'avais cherché à obtenir de chacun sur Albertine? N'était-ce pas moi qui, pour les connaître plus précisément, avait demandé à Saint-Loup, rappelé par son colonel, de passer coûte que coûte chez moi? N'était-ce donc pas moi qui les avais souhaités, moi, ou plutôt ma douleur affamée, avide de croître et de se nourrir d'eux? Enfin, Saint-Loup m'avait dit avoir eu la bonne surprise de rencontrer tout près de là, seule figure de connaissance, et qui lui avait rappelé le passé, une ancienne amie de Rachel, une jolie actrice qui villégiaturait dans le voisinage. Et le nom de cette actrice suffit pour que je me dise, c'est peut-être avec celle-là. Cela suffisait pour que je visse, dans les bras même d'une femme que je ne connaissais pas, Albertine souriante et rouge de plaisir. Et au fond, pourquoi cela n'eût-il pas été? M'étais-je fait faute de penser à des femmes depuis que je connaissais Albertine? Le soir où j'avais été pour la première fois chez la princesse de Guermantes, quand j'étais rentrée, n'était-ce pas beaucoup moins en pensant à cette dernière qu'à la jeune fille dont Saint-Loup m'avait parlé et qui allait dans les maisons de passe et à la femme de chambre de Madame Putbus? N'était-ce pas pour cette dernière que j'étais retournée à Balbec et plus récemment avait bien eu envie d'aller à Venise? Pourquoi Albertine n'eût-elle pas envie d'aller en Touraine? Seulement au fond, je m'en apercevais maintenant. Je ne l'aurais pas quittée. Je ne serais pas allée à Venise. Même au fond de moi-même, tout en me disant « Je la quitterai bientôt. » Je savais que je ne la quitterais plus, tout aussi bien que je savais que je ne me mettrais plus à travailler, ni à vivre d'une façon hygiénique, ni à rien faire de ce que chaque jour je me promettais pour le lendemain. Seulement, quoique je crusse au fond, j'avais trouvé plus habile de la laisser vivre sous la menace d'une perpétuelle séparation. Et sans doute, grâce à ma détestable habileté, je l'avais trop bien convaincue. En tout cas maintenant, cela ne pouvait plus durer ainsi. Je ne pouvais pas la laisser en Touraine avec ces jeunes filles, avec cette actrice. Je ne pouvais supporter la pensée de cette vie qui m'échappait. J'écrirai, et j'attendrai sa réponse à ma lettre. Si elle faisait le mal, hélas, un jour de plus ou de moins ne faisait rien. Et peut-être je me disais cela parce que, n'ayant plus l'habitude de me faire rendre compte de chacune de ces minutes, dont une seule où elle eût été libre m'eût jadis affolée, ma jalousie n'avait plus la même division du temps. Mais, aussitôt sa réponse reçue, si elle ne revenait pas, j'irais la chercher. De gré ou de force, je l'arracherais à ses amis. D'ailleurs, ne valait-il mieux pas que j'y allasse moi-même, maintenant que j'avais découvert la méchanceté, jusqu'ici insoupçonnée de moi, de Saint-Loup? Qui sait s'il n'avait pas organisé tout un complot pour me séparer d'Albertine? Et cependant, comme j'aurais menti maintenant, si je lui avais écrit, comme je le lui disais à Paris, que je souhaitais qu'il ne lui arrivât aucun accident. Ah, s'il en était arrivé un, ma vie, au lieu d'être à jamais empoisonnée par cette jalousie incessante, eût aussitôt retrouvé, sinon le bonheur, du moins le calme par la suppression de la souffrance. La suppression de la souffrance. Ai-je pu vraiment le croire? Croire que la mort ne fait que biffer ce qui existe et laisse le reste en état. Qu'elle enlève la douleur dans le cœur de celui pour qui l'existence de l'autre n'est plus qu'une cause de douleur. Qu'elle enlève la douleur et n'y met rien à la place. La suppression de la douleur. Parcourant les faits divers des journaux, je regrettais de ne pas avoir le courage de former le même souhait que Swann. Si Albertine avait pu être victime d'un accident, vivante, j'aurais eu un prétexte pour courir auprès d'elle. Morte, j'aurais retrouvé, comme disait Swann, la liberté de vivre. Je le croyais. Il l'avait cru, cet homme si fin et qui croyait se bien connaître. Comme on sait peu ce qu'on a dans le cœur. Comme un peu plus tard, s'il avait été encore vivant, j'aurais pu lui apprendre que son souhait, autant que criminel, était absurde, que la mort de celle qu'il aimait ne lui délivrait de rien. Je laissais toute fierté vis-à-vis d'Albertine. Je lui envoyais un télégramme désespéré, lui demandant de revenir à n'importe quelle condition, qu'elle ferait tout ce qu'elle voudrait, que je demandais seulement à l'embrasser une minute, trois fois par semaine, avant qu'elle se couche. Et elle eut dit une fois seulement que j'eusse accepté une fois. Elle ne revint jamais. Mon télégramme venait de partir quand j'en reçus un. Il était de Madame Bontemps. Le monde n'est pas créé une fois pour toutes pour chacun de nous. Il s'y ajoute au cours de la vie des choses que nous ne soupçonnions pas. Ah, ce ne fut pas la suppression de la souffrance que produisirent en moi les deux premières lignes du télégramme. Mon pauvre ami, notre petite Albertine n'est plus. Pardonnez-moi de vous dire cette chose affreuse, vous qui l'aimiez tant. Elle a été jetée par son cheval contre un arbre pendant une promenade. Tous mes efforts n'ont pu la ranimer. Que ne suis-je morte à sa place? Non. Pas la suppression de la souffrance, mais une souffrance inconnue, celle d'apprendre qu'elle ne reviendrait pas. Mais ne m'étais-je pas dit plusieurs fois qu'elle ne reviendrait peut-être pas? Je me l'étais dit en effet, mais je m'apercevais maintenant que pas un instant je ne l'avais cru. Comme j'avais besoin de sa présence, de ses baisers pour supporter le mal que me faisaient mes soupçons. J'avais pris depuis Balbec l'habitude d'être toujours avec elle. Même quand elle était sortie, quand j'étais seule, je l'embrassais encore. J'avais continué depuis qu'elle était en Touraine. J'avais moins besoin de sa fidélité que de son retour. Et si ma raison pouvait impunément le mettre quelquefois en doute, mon imagination ne cessait pas un instant de me le représenter. Instinctivement, je passais la main sur mon cou, sur mes lèvres, qui se voyaient embrassées par elle depuis qu'elle était partie et qui ne la seraient jamais plus. Je passais ma main sur eux, comme maman m'avait caressé à la mort de ma grand-mère en me disant « Mon pauvre petit, ta grand-mère qui t'aimait tant ne t'embrassera plus. » Toute ma vie à venir se trouvait arrachée de mon cœur. Ma vie à venir. Je n'avais donc pas pensé quelquefois à la vivre sans Albertine. Mais non, depuis longtemps je lui avais donc voué toutes les minutes de ma vie jusqu'à ma mort. Mais bien sûr, cet avenir indissoluble d'elle, je n'avais pas su l'apercevoir. Mais maintenant qu'il venait d'être décédé, je sentais la place qu'il tenait dans mon cœur béant. Françoise, qui ne savait encore rien, entra dans ma chambre. D'un air furieux, je lui criais « Qu'est-ce qu'il y a ?» Alors, il y a quelquefois des mots qui mettent une réalité différente à la même place que celle qui est près de nous. Ils nous étourdissent tout autant qu'un vertige. Elle me dit « Monsieur n'a pas besoin d'être fâché, il va être au contraire bien content. Ce sont deux lettres de Mademoiselle Albertine. » Je sentis, après, que j'avais dû avoir les yeux de quelqu'un dont l'esprit perd l'équilibre. Je ne fus même pas heureux, ni incrédule. J'étais comme quelqu'un qui voit la même place de sa chambre occupée par un canapé et par une grotte. Rien ne lui paraissant plus réel, il tombe par terre. Les deux lettres d'Albertine avaient dû être écrites à quelques heures de distance, peut-être en même temps, et peu de temps avant la promenade où elle était morte. La première disait « Mon ami, je vous remercie de la preuve de confiance que vous me donnez en me disant votre intention de faire venir André chez vous. Je sais qu'elle acceptera avec joie, et je crois que ce sera très heureux pour elle. Douée comme elle est, elle saura profiter de la compagnie d'un homme tel que vous, et de l'admirable influence que vous savez prendre sur un être. Je crois que vous avez eu là une idée d'où peut naître autant de bien pour elle que pour vous. Aussi, si elle faisait l'ombre d'une difficulté, ce que je ne crois pas, télégraphiez-moi. Je me charge d'agir sur elle. » La seconde était datée d'un jour plus tard. En réalité, elle avait dû les écrire à peu d'instants l'une de l'autre, peut-être ensemble, et antidater la première. Car tout le temps, j'avais imaginé dans l'absurde ses intentions, qui n'avaient été que de revenir auprès de moi, et que quelqu'un de désintéressé dans la chose, un homme sans imagination, le négociateur d'un traité de paix, le marchand qui examine une transaction, eussent mieux jugé que moi. Elle ne contenait que ces mots. Serait-il trop tard pour que je revienne chez vous? Si vous n'avez pas encore écrit à André, consentiriez-vous à me reprendre? Je m'inclinerai devant votre décision. Je vous supplie de ne pas tarder à me la faire connaître. Vous pensez avec quelle impatience je l'attends. Si c'était que je revienne, je prendrais le train immédiatement. De tout cœur à vous, Albertine. Pour que la mort d'Albertine eût pu supprimer mes souffrances, il eût fallu que le choc l'eût tué non seulement en Touraine, mais en moi. Jamais elle n'y avait été plus vivante. Pour entrer en nous, un être a été obligé de prendre la forme, de se plier au cadre du temps, ne nous apparaissant que par minutes successives. Il n'a jamais pu nous livrer de lui qu'un seul aspect à la fois, nous débiter de lui qu'une seule photographie. Grande faiblesse sans doute pour un être de consister en une simple collection de moments. Grande force aussi. Il relève de la mémoire, et la mémoire d'un moment n'est pas instruite de tout ce qui s'est passé depuis. Ce moment qu'elle a enregistré dure encore, vit encore, et avec lui l'être qui s'y profilait. Et puis cet émiettement ne fait pas seulement vivre la morte, il la multiplie. Pour me consoler, ce n'est pas une. Ce sont d'innombrables Albertines que j'aurais dû oublier. Quand j'étais arrivée à supporter le chagrin d'avoir perdu celle-ci, c'était à recommencer avec une autre, avec cent autres. Alors ma vie fut entièrement changée. Ce qui en avait fait, et non à cause d'Albertine, parallèlement à elle, quand j'étais seule, la douceur, c'était justement à l'appel de moments identiques, la perpétuelle renaissance de moments anciens. Par le bruit de la pluie m'était rendue l'odeur des lilas de Combray, par la mobilité du soleil sur le balcon, les pigeons des Champs-Élysées. Par l'assourdissement des bruits dans la chaleur de la matinée, la fraîcheur des cerises. Le désir de la Bretagne ou de Venise, par le bruit du vent et le retour de Pâques. L'été venait. Les jours étaient longs. Il faisait chaud. C'était le temps où, de grand matin, élèves et professeurs vont dans les jardins publics préparer les derniers concours sur les arbres, pour recueillir la seule goutte de fraîcheur que laisse tomber un ciel moins enflammé que dans l'ardeur du jour, mais déjà aussi stérilement pur. De ma chambre obscure, avec un pouvoir d'évocation égal à celui d'autrefois, mais qui ne me donnait plus que de la souffrance, je sentais que dehors, dans la pesanteur de l'air, le soleil déclinant mettait sur la verticalité des maisons, des églises, un fauve badigeon. Et si Françoise, en revenant, dérangeait sans le vouloir les plis des grands rideaux, j'étouffais un cri à la déchirure que venait de faire en moi ce rayon de soleil ancien, qui m'avait fait paraître belle, la façade neuve de Briqueville l'Orgueilleuse, quand Albertine m'avait dit « Elle est restaurée ». Ne sachant comment expliquer mon soupir à Françoise, je lui disais « Ah, j'ai soif !» Elle sortait, rentrait, mais je me détournais violemment, sous la décharge douloureuse d'un des mille souvenirs invisibles, qui à tout moment éclataient autour de moi dans l'ombre. Je venais de voir qu'elle avait apporté du cidre et des cerises, qu'un garçon de ferme nous avait apporté dans la voiture, à Balbec. Espèces sous lesquelles j'aurais communié le plus parfaitement jadis avec l'arc-en-ciel des salles à manger obscures par les jours brûlants. Alors je pensais pour la première fois à la ferme des Écors. Et je me dis que certains jours où Albertine me disait à Balbec ne pas être libre, être obligée de sortir avec sa tante, elle était peut-être avec telle de ses amies dans une ferme, où elle savait que je n'avais pas mes habitudes. Et peut-être qu'à tout hasard je l'attendais à Marie-Antoinette où on m'avait dit « Nous ne l'avons pas vue aujourd'hui ». Elle usait avec son amie des mêmes mots qu'avec moi, quand nous sortions tous les deux. il n'aura pas l'idée de nous chercher ici, et comme cela nous ne serons plus dérangés. » Je disais à Françoise de refermer les rideaux pour ne plus voir ce rayon de soleil. Mais il continuait à filtrer, aussi corrosif dans ma mémoire. Elle ne me plaît pas. Elle est restaurée. Nous irons demain à Saint-Martin-le-Vêtu. Après-demain à... Demain. Après-demain. C'était un avenir de vie commune. Peut-être pour toujours qui commençait. Mon cœur s'élança vers lui. Mais il n'était plus là. Albertine était morte. Je demandai l'heure à Françoise. 6 heures. Enfin, Dieu merci, allait disparaître cette lourde chaleur dont autrefois je me plaignais avec Albertine et que nous aimions tant. La journée prenait fin. Mais qu'est-ce que j'y gagnais? La fraîcheur du soir se levait, c'était le coucher du soleil. Dans ma mémoire, au bout d'une route que nous prenions ensemble pour rentrer, j'apercevais plus loin que le dernier village, comme une station distante, inaccessible pour le soir même, où nous nous arrêterions à Balbec, toujours ensemble. Ensemble alors, maintenant il fallait s'arrêter court devant ce même abîme. Elle était morte. Ce n'était plus assez de fermer les rideaux. Je tâchais de boucher les yeux et les oreilles de ma mémoire, pour ne pas voir cette bande orangée du couchant, pour ne pas entendre ces invisibles oiseaux qui se répondaient d'un arbre à l'autre de chaque côté de moi, qu'embrassait alors si tendrement celle qui maintenant était morte. Je tâchais d'éviter ces sensations que donne l'humidité des feuilles dans le soir, la montée et la descente des routes à dos d'âne. Mais déjà ces sensations m'avaient ressaisi, ramené assez loin du moment actuel, afin qu'eût tout le recul, tout l'élan nécessaire pour me frapper de nouveau, l'idée qu'Albertine était morte. Ah, jamais je n'entrerai plus dans une forêt, je ne me promènerai plus entre des arbres. Mais les grandes plaines me seraient-elles moins cruelles? Que de fois j'avais traversé pour aller chercher Albertine, que de fois j'avais repris au retour avec elle la grande plaine de Creekville, tantôt par des temps brumeux où l'inondation du brouillard nous donnait l'illusion d'être entourés d'un lac immense, tantôt par des soirs limpides, où le clair de lune, dématérialisant la terre, la faisant paraître à 2 pas célestes, comme elle n'est pendant le jour que dans les lointains, enfermait les champs, les bois avec le firmament auquel il les avait assimilés, dans l'agate arborisée d'un seul azur. Françoise devait être heureuse de la mort d'Albertine, et il faut lui rendre la justice que par une sorte de convenance et de tact, elle ne simulait pas la tristesse. Mais les lois non écrites de son antique code et sa tradition de paysanne médiévale, qui pleure comme aux chansons de geste, étaient plus anciennes que sa haine d'Albertine et même de Lali. Aussi, une de ces fins d'après-midi-là, comme je ne cachais pas assez rapidement ma souffrance, elle aperçut mes larmes. Servie par son instinct d'ancienne petite paysanne, qui autrefois lui faisait capturer et faire souffrir les animaux, n'éprouvait que de la gaieté à étrangler les poulets et à faire cuire vivants les homards, et, quand j'étais malade, à observer, comme les blessures qu'elle eût infligées à une chouette, ma mauvaise mine, qu'elle annonçait ensuite sur un ton funèbre et comme un présage de malheur. Mais son coutumier de Combray ne lui permettait pas de prendre légèrement les larmes, le chagrin, chose qu'elle jugeait aussi funeste que d'ôter sa flanelle ou de manger à contre-cœur. « Oh non, monsieur, il ne faut pas pleurer comme ça, ça vous ferait mal !» Et en voulant arrêter mes larmes, elle avait l'air aussi inquiet que si c'eût été des flots de sang. Malheureusement, je pris un air froid qui coupa court aux effusions qu'elle espérait, et qui, du reste, eussent peut-être été sincères. Peut-être en était-il pour elle d'Albertine comme de Lali, et maintenant que mon amie ne pouvait plus tirer de moi aucun profit, Françoise avait-elle cessé de la haïr. Elle tint à me montrer pourtant qu'elle se rendait bien compte que je pleurais, et que, suivant seulement le funeste exemple des miens, je ne voulais pas faire voir. « Il ne faut pas pleurer, monsieur », me dit-elle d'un ton cette fois plus calme, et plutôt pour me montrer sa clairvoyance que pour me témoigner sa pitié. Et elle ajouta. Ça devait arriver. Elle était trop heureuse, la pauvre. Elle n'a pas su connaître son bonheur. Que le jour est lent à mourir, par ces soirs démesurés de l'été. Un pâle fantôme de la maison d'en face continuait indéfiniment à aquareller sur le ciel sa blancheur persistante. Enfin, il faisait nuit dans l'appartement. Je me cognais au meuble de l'antichambre. Mais dans la porte de l'escalier, au milieu du noir que je croyais total, la partie vitrée était translucide et bleue. D'un bleu de fleurs, d'un bleu d'ailes d'insectes, d'un bleu qui m'eût semblé beau si je n'avais senti qu'il était un dernier reflet, coupant comme un acier. Un coup suprême que dans sa cruauté infatigable me portait encore le jour. L'obscurité complète finissait pourtant par venir. Mais alors il suffisait d'une étoile vue à côté de l'arbre de la cour pour me rappeler nos départs en voiture, après le dîner, pour les bois de Chantepie, tapissés par le clair de lune. Et même dans les rues, il m'arrivait d'isoler sur le dos d'un banc, de recueillir la pureté naturelle d'un rayon de lune au milieu des lumières artificielles de Paris. De Paris sur lequel il faisait régner, en rentrant un instant, pour mon imagination, la ville dans la nature, avec le silence infini des champs, évoquait le souvenir douloureux des promenades que j'y avais faites avec Albertine. Ah, quand la nuit finirait-elle ? Mais à la première fraîcheur de l'aube, je frissonnais, car celle-ci avait ramené en moi la douceur de cet été, où, de Balbec à Incarville, d'Incarville à Balbec, nous nous étions tant de fois reconduits l'un l'autre jusqu'au petit jour. Je n'avais plus qu'un espoir pour l'avenir, espoir bien plus déchirant qu'une crainte. C'était d'oublier Albertine. Je savais que je l'oublierais un jour. J'avais bien oublié Gilberte, Madame de Guermantes. J'avais bien oublié ma grand-mère. Et c'est notre plus juste et plus cruel châtiment de l'oubli si total, paisible comme ceux des cimetières, par quoi nous nous sommes détachés de ceux que nous n'aimons plus, que nous entrevoyons ce même oubli comme inévitable à l'égard de ceux que nous aimons encore. À vrai dire, nous savons qu'il est un état non douloureux, un état d'indifférence. Mais ne pouvant penser à la fois à ce que j'étais et à ce que je serais, je pensais avec désespoir à tout ce tégument de caresses, de baisers, de sommeil ami, dont il faudrait bientôt me laisser dépouiller pour jamais. L'élan de ces souvenirs si tendres, venant se briser contre l'idée qu'Albertine était morte, m'oppressait par l'entrechoc de flux si contrariés que je ne pouvais rester immobile. Je me levais, mais tout d'un coup je m'arrêtais, terrassé. Le même petit jour que je voyais, au moment où je venais de quitter Albertine, encore radieux et chaud de ses baisers, venait tirer au-dessus des rideaux sa lame maintenant sinistre, dont la blancheur froide, implacable et compacte, entrait, me donnant comme un coup de couteau. Bientôt les bruits de la rue allaient commencer, permettant de lire à l'échelle qualitative de leur sonorité le degré de la chaleur sans cesse accrue où ils retentiraient. Mais dans cette chaleur qui, quelques heures plus tard, s'imbiberait de l'odeur des cerises, ce que je trouvais, comme dans un remède que le remplacement d'une des parties composantes par une autre suffit pour rendre, d'un euphorique et d'un excitatif qu'il était, un déprimant, ce n'était plus le désir des femmes, mais l'angoisse du départ d'Albertine. D'ailleurs, le souvenir de tous mes désirs était aussi imprégné d'elle, et de souffrance, que le souvenir des plaisirs. Cette Venise où j'avais cru que sa présence me serait importune, sans doute parce que je sentais confusément qu'elle m'y serait nécessaire, maintenant qu'Albertine n'était plus, j'aimais mieux ne pas y aller. Albertine m'avait semblé un obstacle, interposé entre moi et toutes ces choses, parce qu'elle était pour moi leur contenant, et que c'est d'elle, comme d'un vase, que je pouvais les recevoir. Maintenant que ce vase était détruit, je ne me sentais plus le courage de les saisir. Il n'y en avait plus une seule dont je ne me détournasse, abattue, préférant n'y pas goûter. De sorte que ma séparation d'avec elle n'ouvrait nullement pour moi le champ des plaisirs possibles, que j'avais cru m'être fermé par sa présence. D'ailleurs, l'obstacle que sa présence avait peut-être été, en effet, pour moi, à voyager, à jouir de la vie, m'avait seulement, comme il arrive toujours, masqué les autres obstacles, qui reparaissaient, intacts, maintenant que celui-là avait disparu. C'est de cette façon qu'autrefois, quand quelques visites aimables m'empêchaient de travailler, si le lendemain je restais seule, je ne travaillais pas davantage. Qu'une maladie, un duel, un cheval emporté nous fasse voir la mort de près, nous aurions joui richement de la vie, de la volupté, des pays inconnus dont nous allons être privés. Et une fois le danger passé, ce que nous retrouverons, c'est la même vie morne, où rien de tout cela n'existait pour nous. Sans doute ces nuits si courtes durent peu. L'hiver finirait par revenir, où je n'aurais plus à craindre le souvenir des promenades avec elle jusqu'à l'aube trop tôt levée. Mais les premières gelées ne me rapporteraient-elles pas, conservées dans leur glace, le germe de mes premiers désirs, quand à minuit je la faisais chercher, que le temps me semblait si long jusqu'à son coup de sonnette, que je pourrais maintenant attendre éternellement en vain? Ne me rapporteraient-elles pas le germe de mes premières inquiétudes, quand deux fois je crus qu'elle ne viendrait pas? Dans ce temps-là, je ne la voyais que rarement. Mais même ces intervalles qu'il y avait alors entre ces visites qui la faisaient surgir, au bout de plusieurs semaines, du sein d'une vie inconnue que je n'essayais pas de posséder, assuraient mon calme, en empêchant les velléités sans cesse interrompues de ma jalousie de se conglomérer, de faire bloc dans mon cœur. Autant ils eussent pu être apaisants dans ce temps-là, autant, rétrospectivement, ils étaient empreints de souffrance, depuis que ce qu'elle avait pu faire d'inconnu pendant leur durée avait cessé de m'être indifférent, et surtout maintenant qu'aucune visite d'elle ne viendrait plus jamais. De sorte que ces soirs de janvier où elle venait, et qui par là m'avaient été si doux, me souffleraient maintenant dans leur bise aigre une inquiétude que je ne connaissais pas alors, et me rapporteraient, mais devenu pernicieux, le premier germe de mon amour. Et en pensant que je verrais recommencer ce temps froid, qui depuis Gilberte et mes jeux aux Champs-Élysées m'avait toujours paru si triste, quand je pensais que reviendraient des soirs pareils à ce soir de neige, où j'avais vainement toute une partie de la nuit attendu Albertine, alors comme un malade se plaçant bien au point de vue du corps pour sa poitrine, moi, moralement, à ces moments-là, ce que je redoutais encore le plus pour mon chagrin, pour mon cœur, c'était le retour des grands froids, et je me disais que ce qu'il y aurait de plus dur à passer, ce serait peut-être l'hiver. Lié qu'il était à toutes les saisons, pour que je perdisse le souvenir d'Albertine, il aurait fallu que je les oubliasse toutes, quitte à recommencer à les connaître, comme à un vieillard frappé d'hémiplégie et qui rapprend à lire. Il aurait fallu que je renonçasse à tout l'univers. Seule, me disais-je, une véritable mort de moi-même serait capable, mais elle est impossible, de me consoler de la sienne. Je ne songeais pas que la mort de soi-même n'est ni impossible ni extraordinaire. Elle se consomme à notre insu, au besoin contre notre gré, chaque jour, et je ne souffrirais de la répétition de toutes sortes de journées que non seulement la nature, mais des circonstances factices, un ordre plus conventionnel introduisent dans une saison. Bientôt reviendrait la date où j'étais allée à Balbec, l'autre été, et où mon amour, qui n'était pas encore inséparable de la jalousie, et qui ne s'inquiétait pas de ce qu'Albertine faisait toute la journée, devait subir tant d'évolutions avant de devenir cet amour des derniers temps, si particulier, que cette année finale, où avait commencé de changer et où s'était terminée la destinée d'Albertine, m'apparaissait remplie, diverse, vaste comme un siècle. Puis ce serait le souvenir de jours plus tardifs, mais dans des années antérieures, les dimanches de mauvais temps, où pourtant tout le monde était sorti dans le vide de l'après-midi, où le bruit du vent et de la pluie m'eût invité jadis à rester à faire le philosophe sous les toits, avec quelle anxiété je verrais approcher l'heure où Albertine, si peu attendue, était venue me voir, m'avait caressée pour la première fois, s'interrompant pour Françoise qui avait apporté la lampe. En ce temps deux fois mort, où c'était Albertine qui était curieuse de moi, où ma tendresse pour elle pouvait légitimement avoir tant d'espérance. Même à une saison plus avancée, ces soirs glorieux où les offices, les pensionnats, entr'ouverts comme des chapelles, baignés d'une poussière dorée, laissent la rue se couronner de ces demi-déesses qui, causant non loin de nous avec leurs pareils, nous donnent la fièvre de pénétrer dans leurs existences mythologiques. Ne me rappelait plus que la tendresse d'Albertine, qui, à côté de moi, mettait un empêchement à m'approcher d'elle. D'ailleurs, au souvenir des heures même purement naturelles, s'ajouterait forcément le paysage moral, qui en fait quelque chose d'unique. Quand j'entendrai plus tard le cornet à bouquin du chevrier, par un premier beau temps, presque italien, le même jour mélangerait tour à tour à sa lumière l'anxiété de savoir Albertine au Trocadéro, peut-être avec Léa et les deux jeunes filles, puis la douceur familiale et domestique, presque commune, d'une épouse, qui me semblait alors embarrassante, et que Françoise allait me ramener. Ce message téléphonique de Françoise qui m'avait transmis l'hommage obéissant d'Albertine revenant avec elle, j'avais cru qu'il m'enorgueillissait. Je m'étais trompée. S'il m'avait enivrée, c'est parce qu'il m'avait fait sentir que celle que j'aimais était bien à moi, ne vivait bien que pour moi, et même à distance, sans que j'eusse besoin de m'occuper d'elle, me considérait comme son époux et son maître, revenant sur un signe de moi. Et ainsi ce message téléphonique avait été une parcelle de douceur, venant de loin, émise de ce quartier du Trocadéro, où il se trouvait y avoir pour moi des sources de bonheur, dirigeant vers moi d'apaisantes molécules, des baumes calmants, me rendant enfin une si douce liberté d'esprit que je n'avais plus eue, me livrant sans la restriction d'un seul souci à la musique de Wagner, qu'à attendre l'arrivée certaine d'Albertine, sans fièvre, avec un manque entier d'impatience où je n'avais pas su reconnaître le bonheur. Et ce bonheur qu'elle revint, qu'elle m'obéit et m'appartint. La cause en était dans l'amour, non dans l'orgueil. Il m'eût été bien égal maintenant d'avoir à mes ordres 50 femmes, revenant sur un signe de moi, non pas du Trocadéro, mais des Indes. Mais ce jour-là, en sentant Albertine, qui, tandis que j'étais seule dans ma chambre à faire de la musique, venait docilement vers moi, j'avais respiré, disséminé comme un poudroiement dans le soleil, une de ces substances qui, comme d'autres, sont salutaires au corps, font du bien à l'âme. Puis avait été, une demi-heure après, l'arrivée d'Albertine. Puis la promenade avec Albertine arrivée. Promenade que j'avais crue ennuyeuse, parce qu'elle était pour moi accompagnée de certitudes. Mais à cause de cette certitude même, qui avait, à partir du moment où Françoise m'avait téléphoné qu'elle la ramenait, coulé un calme d'or dans les heures qui avaient suivi. En avait fait comme une deuxième journée, bien différente de la première. Parce qu'elle avait un tout autre dessous moral. Un dessous moral qui en faisait une journée originale, qui venait s'ajouter à la variété de celle que j'avais connue jusque-là. Journée que je n'eusse jamais pu imaginer. Comme nous ne pourrions imaginer le repos d'un jour d'été si de tels jours n'existaient pas dans la série de ceux que nous avons vécus. Journée dont je ne pouvais pas dire absolument que je me la rappelais, car à ce calme s'ajoutait maintenant une souffrance que je n'avais pas ressentie alors. Mais bien plus tard, quand je traversais peu à peu en sens inverse les temps par lesquels j'avais passé avant d'aimer tant Albertine, quand mon cœur cicatrisé put se séparer sans souffrance d'Albertine morte, alors je pus me rappeler enfin sans souffrance ce jour où Albertine avait été faire des courses avec Françoise au lieu de rester au Trocadéro. Je me rappelais avec plaisir ce jour, comme appartenant à une saison morale que je n'avais pas connue jusqu'alors. Je me le rappelais enfin exactement, sans plus y ajouter de souffrance, et au contraire comme on se rappelle certains jours d'été qu'on a trouvés trop chauds quand on les a vécus, et dont, après coup surtout, on extrait le titre sans alliage d'or fin et d'indestructible azur.